Quelqu'un se souvient-il de notre mot d'ordre pour cette année, pour l'année dernière, pour l'année 2013? Le mot d'ordre que nous nous étions donné était « Ensemble, préparons la prochaine étape ». Nous voulions consacrer cette année 2013 à préparer notre Église pour l'étape suivante de sa vie, lui faire digérer les changements qu'elle connaît et la positionner dans la direction qu'elle aura à prendre pour les années à venir. Parmi les tâches que nous nous sommes données, nous souhaitons nous donner d'un conseil plus conséquent, un conseil qui corresponde à la taille de cette Église, renforcée à la hauteur des défis qui s'ouvrent à nous. Renforcer le conseil a été une réflexion de longue haleine, qui nous a occupé de nombreux mois et que nous avons partagé en Église. Et dans le cadre de cette réflexion, nous avons bénéficié d'une série de prédications sur le sujet. Et c'est cette série que je poursuis ce matin. Ça a commencé avec Philippe, qui nous a rappelé que, comme Moïse, débordé par tout ce qu'il avait à gérer pour diriger le peuple, nous avions besoin de conseils extérieurs. Ensuite, nous avons écouté Fabrice, avec qui nous avons vu, en acte 6, le choix de personnes pour servir aux tables. Nous avons vu qu'il ne faut pas faire peser toutes les responsabilités sur quelques-uns, mais au contraire, en donnant des responsabilités à des gens dont on rend un bon témoignage et qui sont remplis de l'Esprit Saint et de sagesse, le service des apôtres est fortifié par le partage des responsabilités. Olivier, ensuite, nous a parlé des critères de choix des dirigeants d'Église à partir des textes bien connus de 1 Timothée et Tite. Nous avons vu ce qui était demandé, qu'ils soient de bons pères de famille, c'est-à-dire des personnes vivant paisiblement, dont on aura un bon témoignage dans leur couple, dans leur famille et dans leur voisinage. Dernièrement, c'est Michael qui nous a parlé de la parabole des talents et nous a dit que Dieu a donné à chacun d'entre nous des dons qui sont une partie de son royaume. Et chacun d'entre nous est appelé à mettre ses dons en œuvre, mettre sa foi en action pour l'édification de son royaume. Aujourd'hui, je terminerai cette série de prédications avant que nous tous concluions ce sujet de réflexion le mois prochain par notre Assemblée Générale où nous choisirons ensemble notre conseil. Et ce matin, je ne partirai pas d'un texte biblique, mais je vous propose plutôt un regard transverse sur ce que dit la Bible au sujet de l'Église. L'Église. L'Église n'a pas la cote aujourd'hui. Quand on parle à nos contemporains de l'Église, ça bloque. Jésus, pourquoi pas? Jésus, il a dit des choses vraiment bien. Écouter ses enseignements, les mettre en pratique, oui. Mais quel besoin peut-on avoir de rejoindre une église, un groupe qui va me dire ce qu'il faut que je fasse, qui va se mêler de ma vie? Quel besoin de faire partie d'un troupeau? Nous vivons dans une société individualiste, une société dans laquelle l'individu est érigé comme valeur suprême. Il faut que chacun soit libre, indépendant vis-à-vis des groupes. Le communautarisme, c'est mal. Le communautarisme, lorsqu'un groupe, ses valeurs, ses idées, ses traditions priment sur un individu, c'est d'un temps révolu à mettre au placard. Vive la liberté. C'est oublier que l'homme est fait pour vivre avec d'autres, pour vivre en société. Comme le dit Aristote, l'homme est un animal politique, c'est-à-dire un être social, un être relationnel. Il se construit avec d'autres par les rencontres qu'il fait et qui le façonnent. L'homme a besoin d'appartenir à des groupes, de se positionner par rapport à eux. Alors oui, le communautarisme, ce n'est pas la panacée. Il fait des dégâts, mais faut-il jeter le bébé avec l'eau du bain ? Faut-il rejeter toute idée de communauté ? C'est un peu excessif, c'est complètement excessif. La foi chrétienne indique une voie moyenne en affirmant autant l'importance de l'individu que de la communauté. La Bible met un accent fort sur l'individu, qui a été créé à l'image de Dieu, qui est responsable personnellement devant Dieu, et à qui Dieu offre un salut individuel. Jésus s'est comparé à un bon berger pour lequel une seule brebis égarée justifie qu'il laisse tout le troupeau pour revenir en arrière, s'en occuper. Mais en même temps, la Bible affirme que ceux qui sont sauvés sont appelés à se rassembler en Église. Dieu ne veut pas seulement sauver des individus, mais il veut se constituer un peuple. La Bible nous dit que Jésus-Christ s'est livré lui-même en rançon pour nous, afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir des bonnes œuvres. Un peuple qui lui appartienne. Jésus est mort pour que nous soyons un peuple, pour que nous nous rassemblons. En d'autres termes, Jésus est mort pour que l'Église puisse exister. L'Église fait partie de l'Évangile. Elle n'est pas un simple impadis, un truc qui est là pour nous occuper en attendant le retour de Jésus-Christ. Dieu a toujours voulu un peuple. Toujours. On le retrouve au commencement, dans la Genèse, avec l'appel d'Abraham. Il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. » Dieu forme une alliance avec Abraham, une alliance qui génère un peuple source de bénédiction pour le monde entier. Dieu renouvelle ensuite cette alliance avec le peuple des descendants d'Abraham à la sortie d'Égypte et il leur demande d'être consacrés, mis à part pour lui. Mais malheureusement, le peuple dévie. L'Ancien Testament nous relate en longueur combien le peuple d'Israël a échoué dans son rôle d'être un peuple digne de Dieu. Et c'est seulement un petit nombre d'entre eux qui parviennent à rester fidèles, qui parviennent à suivre Dieu au milieu d'un peuple oublieux. Et les prophètes nous parlent de ce reste fidèle. Alors Dieu annonce qu'il se constituera un nouveau peuple, un peuple sur lequel il répandra son esprit. Et c'est ce qui se produit après la mort et la résurrection de Jésus à la Pentecôte. Dieu a répandu largement son esprit sur des gens de toutes nations, d'abord rassemblés à Jérusalem et puis sur toute la terre, des gens qu'il a ajoutés ainsi à son peuple. Je cite le livre « Pour une foi réfléchie » dirigé par Alain Nisus. On comprend ainsi que l'Église n'est pas le remplacement pur et simple d'Israël, mais qu'elle est Israël purifié. Les Juifs non-croyants en sont retranchés et élargis de manière à inclure les non-Juifs qui confessent le Christ. L'Église est par conséquent l'ensemble des Juifs et des non-Juifs qui mettent leur foi en Jésus et reçoivent l'Esprit Saint. Voilà le peuple que Dieu s'est formé. Pour expliquer l'Église, la Bible utilise des images. Alors, une première image, nous voulons en parler, c'est celle du peuple. L'Église est le peuple de Dieu. C'est un peuple particulier. C'est un peuple qui rassemble des hommes et des femmes de toute langue, de toute tribu, de toute nation, de toute condition sociale. C'est un peuple sans terre, sans patrie sur terre, mais avec une dimension spirituelle, un peuple avec une patrie céleste. Une autre image utilisée par la Bible, c'est le corps de Christ. L'apôtre Paul utilise cette image, par exemple, dans l'Épître aux Romains. Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec le Christ, et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Cette comparaison met en évidence l'unité, la diversité, la solidarité et l'interdépendance des chrétiens. Nous sommes unis par notre foi commune et notre expérience du don de l'Esprit. Car c'est l'Esprit qui unit les chrétiens les uns aux autres et qui crée le corps. Cette image met également la lumière sur le lien qui unit le Christ à l'Église. Il est la tête du corps. Il est celui qui dirige l'Église, qui la protège, qui en prend soin. Après le peuple, après le corps, je retiendrai une troisième image parmi la galerie que la Bible nous propose. L'Église est le temple du Saint-Esprit. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» L'Église, c'est la demeure de Dieu. Je ne parle pas là du bâtiment. Je parle de la communauté formée par les chrétiens. C'est là que Dieu habite, c'est là que l'Esprit de Dieu se trouve. Et ça a des conséquences. Dans cette optique, les chrétiens sont appelés à la sainteté, c'est-à-dire à être consacrés pour Dieu, réservés pour le culte, destinés à son service. Ils sont mis à part, appelés à avoir une vie digne de lui. Et l'Esprit Saint est le garant, le lien invisible entre eux. La Bible utilise encore d'autres images pour parler de l'Église, mais toutes ces images mettent une chose en évidence, l'Église appartient à Dieu. Le peuple de Dieu, le corps du Christ, le temple du Saint-Esprit. Elle est tout le temps reliée à Dieu. L'Église n'est pas faite pour le monde, pour l'embellir, pour lui donner un sens. Elle est faite par Dieu pour lui appartenir. Il a une volonté pour elle. Il sait ce qu'il attend d'elle. C'est Dieu qui a choisi son peuple et c'est Dieu qui le conduit. C'est Jésus, la tête du corps, qui le dirige et qui en prend soin. C'est l'Esprit qui y habite, qui habite dans le temple qu'est l'Église et qui la consacre. Dieu a voulu l'Église et c'est lui qui la dirige. Mais comment s'y prend-il concrètement pour la diriger ? Dans bien des religions et même dans ce que nous relate l'Ancien Testament sous l'Ancienne Alliance, il y a des prêtres. Un prêtre, c'est un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Pour communiquer avec Dieu, l'homme doit passer par le prêtre. Mais avec la Nouvelle Alliance, depuis Jésus-Christ, il n'y a plus de prêtre. Nous avons tous un accès direct à Dieu. Il est écrit dans l'Apocalypse, Jésus-Christ a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu, son Père. Nous sommes tous prêtres. Il n'y a plus d'intermédiaire. Nous pouvons adresser nos prières à Dieu directement. Nous pouvons tous écouter sa parole. Et c'est à nous qu'il confie les affaires de son Église. Nous avons parlé de l'Église comme du corps du Seigneur. Et nous avons dit que dans le corps, c'est ce que nous avons lu, dans le corps, tous les membres n'ont pas la même fonction. Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes. Et comme les organes dans un corps, tous les membres n'ont pas la même fonction. Et je poursuis ce texte de Paul, ce qu'il a écrit aux Romains, Dieu nous a accordé, par grâce, des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service, que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne, que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage, que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée, que celui qui dirige le fasse avec sérieux, que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Tous les membres n'ont pas la même fonction, tous ne rendent pas le même service, ou en d'autres termes, tous n'ont pas le même ministère. Le Christ dirige son Église à travers des ministères. Un ministère, c'est un service. C'est le service particulier auquel chacun est appelé dans l'Église selon les dons que Dieu lui a donnés. Et parmi ces dons, nous l'avons lu, certains ont le don et la mission de diriger, d'organiser, de montrer la direction à l'Église. Les chrétiens qui ont ces dons et qui les exercent ne sont pas supérieurs aux autres. Ils ont une autre fonction. Ils servent à autre chose. Les chrétiens sont égaux. Ils sont tous prêtres. Ils ont tous les mêmes privilèges. Mais tous n'ont pas la même fonction. Et parmi eux, certains ont pour fonction de diriger l'Église. Alors, que retenir de tout cela ? Quelles conséquences cela peut-il avoir sur nos vies ? J'aimerais que nous retenions bien que c'est Dieu qui a voulu l'Église. Il a voulu ce peuple depuis toujours et pour toujours, comme nous l'avons chanté. Et pour lui, c'est une belle chose. L'Église est à lui et il s'en occupe. C'est son Église, son œuvre. Nous devrions la regarder avec ses yeux, et l'aimer nous aussi, comme il l'aime. Nous devrions nous y attacher, convaincus que telle est la volonté de notre Seigneur. Celui qui participe à la direction de l'Église doit s'effacer pour laisser la place au Seigneur. Il n'est pas là pour faire sa volonté, pour mettre en place ses idées, faire les choses à sa façon. Il est là pour rechercher la volonté de Dieu pour son Église, pour essayer de la discerner avec les autres que Dieu a choisis, par la parole et par l'esprit. C'est la volonté de Dieu qu'il doit mettre en place. La responsabilité de ceux qui dirigent l'Église est grande, et Dieu leur demandera des comptes sur la façon dont ils ont exercé ce ministère. Ils doivent donc prendre leur tâche avec un grand sérieux. Je vous lis les conseils que Paul donne aux responsables qu'il visite. Veillez sur vous-même et sur le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. Comme de bons bergers, prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son sacrifice. Mais cet enseignement sur l'Église ne concerne pas uniquement ceux qui la dirigent. Cela concerne toute l'Église. Déjà, cela nous donne des indications sur la façon dont nous usons notre discernement lors du choix de nos responsables. Car ce sont les membres qui choisissent les dirigeants de l'Église. Ils le font par un vote. C'est un moyen concret de vivre ce que nous croyons, que tous sont égaux, tous prêtres. Ce choix doit se faire avec soin et avec sérieux, en se mettant à l'écoute de Dieu et dans la prière. Une autre chose que nous devons faire, c'est qu'à partir du moment où l'ensemble de l'Église a reconnu à un frère, à une sœur, un ministère pour la direction de l'Église, à ce moment-là, chacun doit agir en conséquence. Chacun est appelé à écouter avec attention et à suivre ses dirigeants, et même à se soumettre. Je lis ce qui est écrit dans Hébreux, au chapitre 13, le verset 17. « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux. Car ils veillent constamment sur vous en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service. » Qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Il ne s'agit pas d'ouvrir la porte à un autoritarisme au sein de l'Église, mais il faut prendre conscience que diriger l'Église est une chose difficile. Conduire des personnes qui viennent, qui se rassemblent librement et qui peuvent repartir tout aussi librement, mettre au travail des bénévoles, quand on a soi-même bien souvent une activité à côté, c'est une tâche bien difficile et qui tient parfois de l'équilibrisme. Les dirigeants qui s'y astreignent ont besoin d'aide. Ils ont besoin qu'on les aide en suivant les initiatives qu'ils lancent. Ils ont besoin d'encouragement dans leurs tâches. Ils ont besoin qu'on respecte le ministère qui leur est confié, de ne pas avoir à se justifier jour après jour. Ceci n'empêche pas une suggestion à propos de temps en temps. L'Église reste un lieu de relations fraternelles et la communication y est vivante. Il peut arriver même que les dirigeants se trompent parfois, et il faut alors leur dire. Mais si l'Église, après s'en être remis au Seigneur, leur confie le ministère de direction, alors elle peut leur faire confiance et les encourager dans cette tâche. Et plus que tout, faites confiance au Seigneur. Il reste le maître et le conducteur de son Église. Il demandera des comptes aux dirigeants. Il jugera les mauvais. Et s'ils égarent le troupeau, il en suscitera d'autres pour le ramener dans le bon chemin. N'ayez donc pas de soucis. L'Église est entre de bonnes mains, les meilleures qui soient, celles de Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Il est temps de conclure. Dans peu de temps, nous terminons la réflexion que nous avons menée sur le renouvellement de notre conseil. Nous le ferons ensemble le mois prochain lors de notre prochaine Assemblée Générale. Et c'est un acte important. Faisons-le avec sérieux, devant le Seigneur. Puis, soyons conséquents avec nous-mêmes pour suivre ceux que nous avons choisis, ceux que nous avons discernés pour rentrer au conseil et organiser, diriger la vie de cette Église. Que ceux qui entreront au conseil, comme ceux qui en font déjà partie, effectuent leurs tâches avec sérieux, recherchant la volonté du Seigneur plutôt que d'essayer d'imposer leurs idées. C'est ce qu'il leur est demandé de faire et de le faire en comptant sur Dieu. Mais surtout, souvenons-nous tous que notre Église ne nous appartient pas. C'est l'Église du Seigneur. Il a voulu son Église partout dans le monde et il a voulu notre communauté, ici, rue Guynemer. Il l'a voulu et il en prend soin. Dans notre société individualiste, où appartenir à un groupe est suspect, souvenons-nous que l'Église fait partie intégrante du plan du salut. En dépit de ses faiblesses, on ne peut pas la négliger. Nous sommes appelés à en faire partie. Nous ratons notre vocation chrétienne si nous ne rattachons pas à une Église locale. C'est le plan que Dieu a pour nous. Et pour conclure, je vous lis un nouveau texte, un dernier texte, écrit par l'apôtre Pierre. Jésus-Christ est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie, et à laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui, et puisque vous êtes aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Amen.